Oui, Saint-Esprit, que ferions-nous sans toi? Si nous ne te laissons pas la liberté, nous allons lire des mots, des phrases, nous allons sans doute comprendre parce que tu as fait de nous des êtres intelligents. Mais où est-ce que ça ira, cette compréhension? Ça restera en superficie, ou bien ça descendra dans notre être intérieur. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous te demandons vraiment d'agir maintenant, de nous toucher tous les uns et les autres, que les mots qui vont être dits, Seigneur, trouvent des échos dans notre cœur, et que nous laissions vraiment ton esprit nous toucher, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Amen. Alors aujourd'hui, pour développer ce thème, je vais lire quatre petits passages. Le premier, c'est dans Genèse, au chapitre 2, le verset 7, juste un verset. Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint une âme vivante. Le deuxième, c'est dans Romains, au chapitre 8, les versets 5 à 7. En effet, dit l'apôtre Paul, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ensuite, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, les versets 13 à 15, nous en parlons, dit l'apôtre Paul, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux, c'est-à-dire avec les discours qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ou psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et enfin, le dernier texte, le dernier passage, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Donc c'est une bénédiction, mais il y a un passage dans cette bénédiction qui est très important. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la parole de Dieu, et particulièrement le dernier texte que je viens de vous lire, nous enseigne que l'être humain se compose de trois éléments distincts, l'esprit, l'âme et le corps. C'est ce que déclare donc ce que je viens de vous lire, 1 Thessaloniciens 5, 23. Tout le monde sait ce qu'est le corps, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais il n'en est pas de même pour l'esprit et l'âme, que l'on a tendance souvent à confondre. Alors que la Bible les différencie nettement. Essayons de comprendre ce que ces deux termes désignent. Qu'est-ce que l'esprit donc ? Tous les êtres humains possèdent un esprit. Cet esprit a été donné à l'homme par Dieu, comme le dit le texte que je vous ai lu dans Genèse 2,7, Dieu insuffla dans ses narines un souffle vital. C'est grâce à notre esprit que nous pouvons connaître Dieu. C'est grâce à notre esprit que nous pouvons entrer en relation avec lui par l'Esprit Saint. Attention, ne confondons pas l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, qui lui est l'Esprit de Dieu. De quoi se compose l'esprit humain ? Eh bien, la Bible nous permet de discerner trois parties. La première partie, c'est la conscience. C'est l'organe du discernement, la conscience. Elle nous permet de distinguer le bien du mal, sans nous référer aux opinions du dehors, de la société, par exemple. Si un homme commet le mal, sa conscience le lui fera voir. La deuxième partie de l'esprit, c'est l'intuition. C'est une forme de connaissance qui vient à l'homme sans le secours de l'intelligence, sans le secours du sentiment ou de la volonté. C'est par son intuition que les révélations de Dieu se font connaître aux croyants, ainsi que tous les mouvements du Saint-Esprit. Le croyant doit donc être attentif à ces deux éléments, la voix de la conscience et l'enseignement de l'intuition. Troisième élément, c'est la communion. La communion, c'est ce qui conduit l'homme à adorer Dieu. Ces trois éléments sont dans une profonde dépendance mutuelle. Notre adoration de Dieu et les communications de Dieu avec nous se situent dans l'esprit. Elles se manifestent dans l'homme intérieur, mais elles ne peuvent pas se manifester dans l'âme. Alors, puisqu'on parle d'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme, c'est notre personnalité. C'est notre moi. Elle se compose aussi de trois parties. L'intelligence, les émotions et la volonté. Ces trois parties sont présentes dans chaque homme. L'intelligence, c'est la partie principale de l'âme. C'est l'organe par lequel nous pensons, nous méditons, nous réfléchissons, nous mémorisons. Depuis que l'homme a goûté le fruit que Dieu lui avait interdit de manger, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il vit essentiellement dans son intelligence, sans se laisser guider par les pensées de son intelligence. Il vit essentiellement dans l'intelligence et se laisse diriger par les pensées de son intelligence. La plupart du temps, ce sont ses pensées qui dirigent ses actes. La deuxième partie, c'est l'émotion. C'est la partie de l'âme qui inclut l'amour, la colère, le chagrin, la joie. L'homme aime, se réjouit, est, du verbe haïr, est chagriné, excité, déprimé. Ces différents états de l'homme sont des fonctions émotionnelles de son âme. Certaines personnes très émotives réagissent aux circonstances par leurs émotions. Elles ne se laissent pas facilement convaincre par l'intelligence, mais sont facilement atteintes dans leurs émotions. La troisième partie, c'est la volonté. C'est la partie de l'âme où l'homme prend des décisions. Il décide, il détermine, il juge, il choisit, il accepte ou il refuse. Dans le passage de 1 Corinthiens 2, 13 et 14 que je vous ai lu, nous voyons que Paul distingue deux catégories d'hommes. D'une part, les hommes naturels ou psychiques, et d'autre part, les hommes spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour faire vite, je développerai ça tout de suite, un homme psychique. Psychique, c'est psyché, hein. Psyché en grec, c'est l'âme. Un homme psychique, c'est un être qui se laisse diriger par son âme. Un homme spirituel, c'est un être qui se laisse diriger par son esprit. Pourquoi Paul tient-il à expliquer la différence aux chrétiens de Corinthe? Parce que lorsqu'on ignore cette différence, cela a des conséquences dramatiques pour la foi. En effet, dans 1 Corinthiens 2, le verset 13 nous dit qu'il est possible d'instruire un homme spirituel des réalités spirituelles, car cet homme a la capacité de les comprendre. Par contre, le verset 14 nous dit que l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est la citation de Paul. Ces deux versets nous disent une chose capitale dont un chrétien doit avoir confiance, conscience et qu'il ne doit jamais oublier. Ne pas comprendre la différence entre l'âme et l'esprit, c'est la porte ouverte pour se mettre à douter de ce qu'affirme la Bible. C'est prendre le risque de juger de la vérité des textes bibliques à l'aune de son intelligence d'homme. L'intelligence que Dieu a accordée à l'homme est une chose vraiment magnifique. Mais lorsque, volontairement ou non, elle est déconnectée de son esprit, c'est-à-dire lorsqu'elle veut être indépendante de l'esprit, c'est elle, l'intelligence, qui définit ce qu'est la vérité, avec toutes les dérives que cela peut entraîner. Les exemples ne manquent pas pour illustrer cette déconnexion, pour illustrer cette indépendance. De très nombreux chrétiens, je dis bien chrétiens, nient, du verbe nier, la résurrection corporelle de Jésus. D'autres chrétiens nient la virginité de Marie. D'autres encore nient l'existence de Satan, la réalité des miracles, etc. Sans parler des déviances sur le plan éthique, on est bien passé dans notre 21e siècle pour les voir, ces déviances. Pourquoi? Oh, pour une simple raison. Leur intelligence a pris le pouvoir sur l'esprit. Seul l'esprit de l'homme est capable d'entrer en communion avec le Saint-Esprit, d'admettre et de comprendre les vérités que nous enseigne la Bible. Lorsque l'âme est indépendante de l'esprit, ces vérités semblent incongrues et absurdes. L'âme considère ces choses comme une folie, car l'âme est incapable de comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, comme nous le dit Paul au verset 14. Nous connaissons tous des hommes et des femmes intelligents, sensibles ou volontaires, qui rejettent violemment tout ce que dit la Bible ou qui y sont parfaitement indifférents. Certaines personnes sont davantage portées sur l'intelligence, d'autres sur les émotions, d'autres encore sur la volonté. Mais dès qu'une personne laisse conduire sa vie par une de ces trois parties, elle devient une personne psychique ou bien naturelle, comme l'écrit Paul. Autrement dit, c'est son âme qui dirige sa vie. Je veux souligner que l'âme n'est pas nécessairement directement liée au péché. C'est important de comprendre ça. Bien souvent, si l'homme ne pêche pas, il n'est pas considéré comme charnel aux yeux des hommes. Il peut être considéré comme un homme bon. Aux yeux des autres, il apparaît souvent comme ayant peu de défauts. S'il agit d'une façon équilibrée dans ses émotions, s'il fait preuve d'une volonté ferme, s'il a une intelligence vive, il fait souvent l'admiration des autres hommes. Cependant, aux yeux de Dieu, son esprit est bloqué et sa compréhension spirituelle est très faible, car il reste un homme psychique. Les difficultés qu'éprouvent de nombreux chrétiens pour les choses spirituelles sont souvent liées à une pensée trop active. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser leur intelligence lorsqu'il s'agit de considérer les choses spirituelles. Ils ne réalisent pas que l'intelligence n'a aucune capacité à comprendre l'esprit, puisque l'intelligence est une partie de l'âme. Pour d'autres, l'obstacle, c'est la volonté. Ils jugent et décident en étant dépendants de leur volonté pour chaque situation. Alors, sans même en être conscients, ils vivent dans leur âme et ont du mal à comprendre les choses spirituelles. Chaque personne a tendance à vivre et à agir dans la partie de son âme qui est la plus forte. Et c'est cette partie qu'elle va utiliser pour faire face aux différentes situations de la vie. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant nous permet de mieux comprendre ce que Paul entend par homme spirituel. C'est une personne qui ne laisse diriger sa vie ni par son intelligence, ni par ses émotions, ni par sa volonté. Autrement dit, c'est son esprit qui dirige sa vie. Bien que les personnes spirituelles aient aussi une âme, et bien que l'intelligence, les émotions et la volonté soient bien présentes en elles, elles ne vivent pas par ces fonctions de l'âme. Elles vivent par l'esprit et dans l'esprit. Elles permettent à l'esprit d'être le maître et la source de toutes leurs actions et de leurs comportements. L'esprit occupe en elles une place dominante et l'âme occupe en elles une place de soumission. L'intelligence, les émotions, la volonté fonctionnent très bien, mais elles sont sous le gouvernement de l'esprit et sont dirigées par l'esprit. Bien qu'elles sachent faire usage de leur intelligence, de leur émotion et de leur volonté, ces personnes spirituelles suivent toujours le sentiment de l'esprit en premier lieu. Elle refuse la domination de l'âme. Elle refuse d'être dirigée par une des trois parties de leur âme. Elles permettent donc vraiment à l'esprit de diriger tout leur être, en toutes circonstances. Leur premier réflexe est d'utiliser leur esprit en cherchant dans cet esprit Quel est le sentiment du Seigneur face à une situation donnée? C'est seulement après avoir saisi le sentiment du Seigneur qu'elles utilisent leur intelligence pour comprendre ce sentiment de leur esprit. Elles utilisent leurs émotions pour exprimer ce sentiment et elles utilisent leur volonté pour accomplir ce que ce sentiment leur montre. On pourrait penser qu'un chrétien ne peut être qu'un homme spirituel et en aucun cas un homme psychique. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sauvés parce qu'ils croient au sacrifice de Jésus vivent par leur âme parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre l'esprit et l'âme et ce que cela implique. De plus, ils ignorent que Dieu désire les délivrer de se laisser conduire par leur âme afin qu'ils vivent par l'esprit. Un chrétien qui ne comprend pas cela pense qu'il est convenable et nécessaire de vivre par l'intelligence, par les émotions ou la volonté de son âme, et que tout va bien, pourvu qu'il se donne la peine de ne pas connaître d'erreur. Ce dont il n'est pas conscient, c'est que pour être chrétien au vrai sens du terme, cette attitude et ce genre de vie sont beaucoup trop insuffisants. D'autres chrétiens savent que leur esprit a été vivifié lorsqu'ils sont nés de nouveau, que leur esprit est différent de leur âme, que Dieu aimerait qu'ils vivent dans leur esprit, qu'ils vivent de leur esprit. Ils continuent pourtant à se plaire dans leur âme et à vivre dans cette sphère. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop habitués à vivre de cette façon et qu'ils ne comprennent pas vraiment l'importance de vivre en esprit. Ils savent que l'homme doit s'approcher de Dieu par l'esprit, mais ils continuent à utiliser leur âme pour toucher les choses divines. Ils ne cultivent pas l'habitude d'utiliser l'esprit. Ces personnes sont de bons chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens spirituels. Ils ont besoin d'être délivrés, non pas du péché, puisque c'est déjà fait par leur foi en Christ. Ils ont besoin d'être délivrés de l'indépendance de leur âme. Ils ont besoin d'être délivrés non pas de la chair mauvaise, que l'homme n'a aucune peine à condamner, mais de l'âme bien propre, si apprécié de tout le monde. S'il ne passe pas par une telle délivrance, il reste étranger aux choses de l'Esprit de Dieu. En effet, l'intention de Dieu n'est pas de nous délivrer de toutes nos fautes pour nous amener à un état de perfection. Son vrai désir est de nous délivrer de l'indépendance de l'âme pour que ce soit l'esprit qui dirige notre vie. Dieu ne veut pas que nous vivions seulement une vie sans faute. Il désire surtout nous voir mener une vie spirituelle. Malheureusement, en grande partie à cause de leur ignorance concernant la différence entre l'esprit et l'âme, de nombreux chrétiens vivent toujours dans leur âme et s'épuisent à mener une vie parfaite par la vie de leur âme. Leur esprit est certes vivifié, mais ils ne savent pas qu'ils doivent l'utiliser pour vivre par lui. Toute leur vision des choses, leur jugement, leur penchant, leurs inclinaisons sont dans l'âme et non dans l'esprit. Même si leurs pensées sont pures, leurs émotions équilibrées, leurs décisions précises. Ils restent psychiques et non spirituels. Alors, comment pouvons-nous être délivrés de vivre par l'âme ? Eh bien, pour cela, nous avons besoin d'une double révélation. L'une concerne l'âme et l'autre concerne la croix. Le Saint-Esprit doit d'abord nous révéler que l'âme est incapable de comprendre quoi que ce soit des choses de Dieu et qu'elle n'a aucune valeur dans les choses spirituelles. Si le Saint-Esprit n'intervient pas pour nous faire comprendre cela, notre intelligence ne pourra pas le comprendre. Je répète, le Saint-Esprit doit d'abord nous révéler que l'âme est incapable d'accomplir quoi que ce soit des choses de Dieu et qu'elle n'a aucune valeur dans les choses spirituelles. Peu importe l'excellence et la force des parties de notre âme, les choses de Dieu et les choses spirituelles lui restent inaccessible et incompréhensible. L'intelligence la plus vive, les émotions les plus équilibrées et la volonté la plus ferme ne peuvent jamais nous rendre spirituels. Voilà la première chose que nous devons demander à Dieu de nous révéler. Je fais une petite parenthèse. Peut-être que ça vous est arrivé de comprendre les choses intellectuellement, mais que ces choses ne sont jamais descendues au fond de votre cœur, que ces choses ne sont jamais venues atteindre l'homme intérieur. C'est ça qu'il faut demander au Seigneur de nous révéler. Qu'est-ce que nous avons compris, plus ou moins ? Deviennent vraiment partie de nous. La seconde révélation que nous devons demander à l'Esprit Saint, c'est de nous faire comprendre que notre âme, que nous aimons tant, et tout ce qui est lié, a déjà été crucifié sur la croix avec Christ. Dans Galates 2:20, lorsque Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ » et il ajoute « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. » Le « je », ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Aux yeux de Dieu, à cause de la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, l'âme n'est bonne que pour la mort. En fait, Dieu s'en est déjà occupé à travers la croix de Christ. Il est donc inutile de chérir les choses de notre âme. Nous devons plutôt admettre qu'elle doit mourir. Ne bloquez pas votre compréhension pour l'instant. Nous devons plutôt admettre que cette âme doit mourir, qu'elle mérite la mort et qu'en fait, elle est morte comme notre vieille nature. Romains 6:6. En effet, comme notre vieille nature, notre âme doit aussi passer par la croix de Christ. Mais comprenons bien, elle doit mourir, cette âme, non pas pour être détruite, mais pour être soumise à notre esprit. C'est exactement ce qui se passait dans l'état où Adam se trouvait avant la chute. L'âme est toujours là, et c'est magnifique, avec ses dons naturels. Mais la croix doit faire passer ses dons naturels par la mort. La croix doit mettre sur ses dons naturels la marque de la mort de Christ. Cette marque de la mort est sans cesse laissée sur l'âme pour l'amener à la place où elle restera toujours soumise à l'esprit, à la place où elle ne s'affirmera jamais de manière indépendante. Dans toutes les choses divines, nous devons refuser la prééminence des trois parties de notre âme et laisser l'esprit occuper la première place pour gouverner et diriger toutes nos actions. Le résultat sera le suivant. D'une part, nous pourrons utiliser toutes les parties de notre âme, oui, mais seulement au service de l'esprit. Et d'autre part, nous ne vivrons pas par l'âme. Nous ne serons pas des chrétiens psychiques, mais des chrétiens spirituels. Seigneur, il y a des mots humains qui viennent d'être prononcés. Ils peuvent rester sans écho. Non, que par ton esprit, cher Seigneur, ils trouvent un écho dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.